quoi tu penses?
Puis ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. C'est la rentrée aussi pour les conseils cinéma du Dietrich. Vous retrouverez ça en seconde partie d'émission. On parlera aussi des alliances entre universités qui prennent de l'ampleur. Comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda, vos découvertes musicales. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle technique en chirurgie vasculaire. Et pour en parler, on accueille le docteur Mathieu Desvergnes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien à la polyclinique de Poitiers. Et donc, vous mettez en œuvre depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, une nouvelle technique pour déboucher les artères des membres inférieurs. Racontez-nous un petit peu déjà quel est l'enjeu de cette technique avant de nous en parler plus précisément.
Oui, donc moi, je suis chirurgien vasculaire, effectivement, à la polyclinique. En fait, l'enjeu, c'est de traiter donc ce qu'on va appeler la plaque d'athérome. Donc, la plaque d'athérome, c'est un dépôt qui va se localiser à l'intérieur des artères. Cette plaque d'athérome, en fait, elle est faite de gras, de calcium et de dépôts fibrineux et qui va être favorisé par les facteurs de risque qu'on connaît, qui sont l'âge, l'hypertension, le diabète et puis le tabac, bien sûr, et également le cholestérol.
Donc ça peut concerner un peu tout le monde, à
oui,
n'importe
alors,
quel âge.
C'est vrai qu'on a des patients jeunes, mais c'est vrai que c'est surtout quand même les patients âgés, puisque l'âge va favoriser cette plaque d'athérome de façon obligatoire, et elle va être aggravée par ces facteurs de risque, donc fumeurs, surtout diabétiques. Alors après, ça va être des localisations différentes au niveau du corps. Donc là, il faut savoir que c'est surtout une technique pour les artères des jambes, donc des membres inférieurs. Et donc cette plaque d'athérome, en fait, va se former et de temps en temps, elle peut empêcher le passage du sang dans l'artère et du coup provoquer des symptômes au niveau du membre inférieur. En gros, il va y avoir moins de sang dans la jambe et du coup, le patient va avoir mal au bout d'un certain temps, au bout de quelques centaines de mètres, et ça va l'obliger à s'arrêter.
Et ça, il y a beaucoup de personnes, vous disiez d'un certain âge, mais ça impacte beaucoup de personnes en France ?
Oui, c'est quand même assez fréquent, de plus en plus avec le vieillissement de la population. Finalement, on se rend compte qu'on a maintenant des patients de plus de 80 ans qui sont comme vous et moi, qui ont une activité très importante après la retraite. Et du coup, effectivement, on a de plus en plus de patients également avec les facteurs de risque qui continuent à évoluer malgré les recommandations de ne pas fumer, de faire attention à ce qu'on mange. Voilà. Et puis aussi des facteurs génétiques qu'on ne maîtrise pas encore complètement mais qui favorisent le développement de cette plaque de façon inexorable.
Et alors jusqu'à présent, comment on traitait ce genre de patients ?
Donc en fait, c'est il y a quelques années, enfin il y a avant que je commence finalement ce travail, ce métier, on faisait surtout des pontages, donc c'était des dérivations de sang avec l'utilisation de veines, donc des interventions assez complexes, sans rentrer dans les détails. Et depuis quelques 10-15 ans, on a développé des techniques endovasculaires, donc en passant à l'intérieur des artères. Donc ces techniques qui permettent d'être moins invasives, moins agressives pour le patient, se font sous anesthésie locale. Et finalement, ça consiste à utiliser des ballonnets pour dilater l'artère qui est rétrécie, où il y a un rétrécissement, ou même quand c'est complètement bouché. Et ensuite, on utilise ce qu'on appelle un stent. Un stent, c'est un ressort métallique qui va du coup réouvrir l'artère et va plaquer cette plaque d'athérome contre la paroi.
Et donc là, vous allez plus loin avec cette nouvelle technique.
Oui, parce qu'en fait, finalement, le stent, il faut imaginer que ça reste quelque chose de métallique. Alors, bien évidemment, il y a eu beaucoup de progrès de la part des firmes, de laboratoires, pour trouver ce bon équilibre entre flexibilité, parce qu'il faut quand même que ce ressort soit flexible lors du mouvement de la jambe, et également lutter contre cette partie calcifiée de la plaque. Il faut savoir qu'il y a certains patients qui ont des plaques qui sont dures comme de l'os, à l'intérieur des artères, et du coup, le stent va avoir du mal à s'ouvrir, à s'expandre, et on prend des risques, du coup, que ça se bouche, et quand ça se bouche, ben, ça peut être assez grave avec ce qu'on appelle des ischémies, donc un manque d'afflux sanguin dans la jambe, et qui peut nécessiter des opérations en urgence. Donc du coup, on a développé une nouvelle technique qui permet d'éviter finalement la mise en place de ce ressort, donc de ce stent, et qui va traiter la plaque d'athérome.
Donc Stealth 360, comment vous l'avez découverte, vous, cette technique ?
En fait, c'est un laboratoire qui m'en a parlé. Il faut savoir que c'est une technique qui est utilisée par les Américains. Alors ça, c'est un matériel parmi d'autres qui existent, mais ce matériel-là, donc le Stealth, a été importé, c'était une boîte qui a été rachetée par un laboratoire qui travaille en France, qui s'appelle le laboratoire Abbott, qui a racheté ce matériel qui était utilisé aux États-Unis. Et voilà, on m'en a parlé. Et puis moi, c'était quelque chose que je voulais essayer. C'est une certaine façon aussi de voir des choses différemment dans cette chirurgie vasculaire où on essaie de préparer l'artère avant la mise en place d'un ballon ou des choses comme ça. Et donc, j'avais entendu parler dans des congrès de ce genre de technique.
Et alors, en quoi ça consiste et quelle est vraiment l'avancée pour les patients, surtout ?
Donc, l'avancée, déjà, c'est que c'est une opération qui peut se faire en ambulatoire. Donc, c'est très...
C'est-à-dire qu'on ressort dans la journée.
Ouais, c'est ça. On ressort dans la journée. C'est très à la mode. Moi, c'est vrai que j'adore l'ambulatoire.
Ça fait des économies.
Ça fait des économies.
Mais il y a aussi peut-être moins de complications.
Oui, moi, j'adore l'ambulatoire parce que l'hôpital, ça reste quand même assez austère. On mange mal.
On dort mal.
On dort mal, très mal. Et c'est vrai que l'objectif, c'était quand même que le malade retrouve son domicile. C'est très important, surtout chez les gens âgés de nos jours. Les gens âgés, dès qu'ils ne sont plus chez eux, qu'ils perdent leur repère, ils ont tendance à perdre un peu la tête. Donc du coup, ça permet de développer l'ambulatoire. Et du coup, ça va vraiment... l'avantage pour le patient, c'est que ça va déjà traiter des endroits qu'on ne traitait pas forcément avant, notamment sur l'artère au niveau du pli de laine et au niveau du genou, parce que c'est des zones de flexion. Et ces zones, les stents, ça ne marche pas très bien. Et surtout, ces artères calcifiées, où finalement, on se rendait compte que les stents n'étaient pas bien ouverts et on se doutait que ça allait se boucher au bout de quelques temps. Donc, voilà.
Et donc, comment ça marche maintenant ?
Donc, en fait, c'est un cathéter qu'on va insérer dans l'artère. Donc, tout est en intra-artériel. On utilise un système de rayons pour naviguer. Donc, une radio, en fait, qui va se positionner au-dessus du patient. C'est des rayons X. Donc, c'est bien sûr du matériel qu'on voit au rayon X qui va naviguer à l'intérieur du vaisseau. On utilise du produit de contraste, donc de l'iode, pour faire des images en temps réel, pour localiser le rétrécissement à traiter. Et en fait, ce dispositif, donc le Stealth, c'est une sorte de cathéter sur lequel il y a comme une fraiseuse, c'est ce qu'on appelle un diamant. C'est pas un diamant qu'on met sur des bagues, mais c'est une couronne diamantée. Et en fait, ce cathéter va tourner assez rapidement, donc on a trois vitesses. Et en tournant, ça va, avec la force centrifuge, ce diamant va venir abraser l'intérieur de l'artère et du coup la plaque. Et du coup, ça va permettre de vraiment nettoyer l'artère de cette calcification. Et ensuite, on utilise, quand on a fini, donc on fait plusieurs passages au sein de l'artère. Et quand on a fini, on utilise un ballon pour bien réouvrir l'artère. Et normalement, le résultat est satisfaisant et permet d'éviter la mise en place du stent, donc de ce ressort à la fin.
Vous avez pu tester ça pour la première fois il y a quelques mois, c'était au printemps, je crois.
Oui, c'est ça, au printemps. On l'a testé sur la première fois sur un patient. C'était bien passé, c'était l'ambulatoire, il est sorti le jour même, avec un bon résultat pendant l'opération et puis après, parce que c'est un patient que j'ai revu et franchement, il est très satisfait. Voilà.
Donc, et puis il y a très peu d'endroits en France où ça se fait encore.
Oui, alors là, ça commence à se développer, mais on a été les premiers, on était 4e ou 5e centre en France, surtout des cliniques dans le sud-est de la France. C'est des cliniques qui ont essayé et puis nous, dans tout l'ouest... De la Normandie jusqu'à Bordeaux, on était les premiers. Voilà.
Donc ça permet de penser à des cas qui n'étaient pas traitables avant, ça permet d'ouvrir des perspectives.
Exactement, ça ouvre des perspectives, ça évite d'endormir les patients pour des interventions plus complexes, plus lourdes, et ça permet de traiter des endroits qu'on était plutôt réticents à traiter avant. Et surtout, ça fait de l'innovation, et c'est bien pour les patients. Alors après, il faut faire des études, c'est toujours pareil. Une technique, c'est bien, mais il faut l'évaluer. Donc du coup, on va évaluer cette technique en revoyant régulièrement les patients et voir les résultats.
Merci beaucoup, docteur Mathieu Desvergnes, donc chirurgien vasculaire à la Polyclinique de Poitiers, d'être venu nous parler de cette nouvelle technique pour déboucher les artères des membres inférieurs.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Bonne journée.
Merci.
On découvre tout de suite l'artiste Petite Gueule et un extrait de son premier album Gronde, le titre Point d'orgue.
Je me dévore, d'accord, je suis des terres tapaïdes et je t'arrête tout de suite, j'ai le mort, c'est toi qui vas m'écouter. Premier album, ça vient juste de commencer, j'arrive, je suis déterminée à cramer le scud, à vous mordre les papilles, à foutre le sbeul, à vous envahir, à vous parler un peu, à exprimer, à dire, à jouer avec le feu que les cœurs y attirent. Petite gueule gronde, ma nostalgie est gravée. Ce que je vous raconte, c'est toute ma vie sur un CD, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me parle, c'est tout ce qui me passionne, la langue est mienne, les notes se chargent, d'amplifier ce qui en moi bouillonne. C'est la fin de l'acte 1, j'ai plié le game, enchanté. Fait que petite gueule, is my name. V'là le kiff. Merci si, merci, merci si, la famille. Quand je serai grande, grande, grande. V'là le kiff. Merci si, merci, merci si, la famille. Je veux que ça gronde, gronde, gronde. V'là le kiff. Merci si, merci, merci si, la famille. Que ma joie tremble, tremble, tremble. V'là le kiff. Merci si, merci, merci si, la famille. Sur les ondes, ondes, ondes. À partir de maintenant, mes mots s'envolent, ils sont à vous. Pour que le grand voyage commence, il faut aller au bout. Décider que c'est fini, arrêter, que le rêve s'ancre, que l'encre sèche et résonne sur le papier. Mon cœur est perforé, comme les feuilles à quatre trèfles, les grands carreaux vont me manquer. Ce point d'orgue tombe à pic, pour que l'étreinte ne cesse entre mes mots et la musique.
Pulsar.
Pulsar.
Radio curieuse et citoyenne.
Et on accueille maintenant Ludovic Thillier, qui est vice-président de l'Université de Poitiers, délégué à l'Alliance EC2U et au réseau européen. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler d'un développement encore plus grand des alliances européennes. Vous êtes, avec l'Université de Poitiers, lauréat d'un appel à projet européen pour renforcer ces échanges. Racontez-nous.
Absolument. Alors, vous le savez, peut-être on peut reprendre rapidement. L'Université de Poitiers coordonne une alliance d'universités européennes, donc qui est constituée de 8 universités. On pourra les citer plus tard si besoin. Mais surtout, Poitiers n'est pas seul à coordonner une alliance, puisque depuis cette année, cet été, il y a 64 alliances. Donc ça regroupe maintenant, je n'ai pas regardé les chiffres exacts, mais on est, je pense, plus de 600 universités mobilisées par ce concept d'alliance d'universités européennes, donc qui sont maintenant 64. Les premières, dont faisait partie l'alliance que coordonne Poitiers, on va redonner son nom, c'est EC2U. Alors ça, c'est l'acronyme en anglais. En français, on dirait EC2U. Mais évidemment, nous, on préfère utiliser le terme anglais, EC2U, qui est l'acronyme pour European Campus of City Universities, campus européen des universités dans la cité. Et ce terme « université dans la cité », il est important à Poitiers, puisqu'effectivement, notre université, c'est un peu sa signature, sa marque de fabrique, c'est-à-dire ce lien très fort entre l'université en tant que centre de production de la connaissance, de formation des étudiants, etc., mais qui reste très connecté à son écosystème local avec la société, la municipalité et tous les partenaires locaux. Donc ce concept de City Universities, d'université dans la cité, il est au cœur de notre alliance EC2U, EC2U. Et comme je viens de vous le dire, donc en fait aujourd'hui il y a 63 autres alliances. Ce qui fait que, en fait, sur le continent européen, il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se développer maintenant depuis quelques années. Et on avait déjà formé un groupe informel de toutes ces alliances pour essayer de partager, on aime bien dire en général, le partage des bonnes pratiques. Mais c'était aussi de trouver ensemble des solutions sur comment faire, par exemple, que l'on puisse créer facilement des diplômes conjoints pour les étudiants. Enfin, voilà, des choses qui peuvent être parfois très pratique, très pragmatique en termes de vie étudiante, et puis des choses un petit peu plus politiques sur le renforcement du soutien à l'enseignement supérieur en Europe, etc. Donc ce réseau informel d'alliances existait. Il se trouve que Poitiers, et en l'occurrence moi-même, nous étions en pointe puisqu'on coordonnait un des groupes informels d'alliances. Et il se trouve que la Commission européenne avait trouvé que c'était une très très bonne idée, que ces alliances se regroupent pour être plus fortes ensemble, et donc avait lancé un appel en début d'année 2024 pour des projets qui, s'ils sont lauréats, puissent être financés pour vraiment faire ce partage de bonnes pratiques de manière... Je ne voudrais pas dire plus professionnel, parce qu'on était déjà professionnel, mais en tout cas avec des ressources qui nous permettent de le faire bien.
D'ailleurs, voilà. Vous avez obtenu 1,8 million d'euros de la Commission européenne pour 2 ans pour ce projet For You, For All.
C'est ça. Alors, c'est pour 4 ans.
Pour 4 ans.
Parce que 2 ans, ça serait vraiment court. Déjà que 4 ans, ça, on sait, ça passe très, très vite. Et donc, effectivement, le consortium d'alliances, puisque maintenant, ce n'est plus un consortium d'universités, mais un consortium d'alliances. Il y a 8 alliances qui sont, je dirais, vraiment plus actives que les autres parce qu'elles ont pris des responsabilités. Il y a notamment 2 alliances qui co-coordonnent ce groupe. C'est donc EC2U, EC2U, Poitiers. Et une autre alliance qui est basée à Bruxelles, qui s'appelle ECIU, qui est une alliance d'universités qui travaille beaucoup sur l'innovation en termes de recherche. Donc ces 2 alliances plus 6 autres sont vraiment partie prenante et vont mettre en place des activités pour faire travailler ensemble toutes ces alliances. Donc en fait, c'est une alliance d'alliances.
Et concrètement, ça peut aboutir à quoi ? Quelles sont les activités qui peuvent être mises en place ?
Alors, il y a des activités un petit peu classiques, on dirait, de lobbying, c'est-à-dire en fait essayer de faire en sorte que les politiques européennes en matière d'enseignement supérieur et de la recherche soient conformes à nos attentes pour qu'on puisse continuer à se développer, toujours offrir les meilleures conditions aux étudiants, même en termes d'innovation et de recherche. Donc ça, c'est des choses entre guillemets un petit peu classiques. Mais ce qui était important, c'était que les alliances puissent vraiment partager les bonnes pratiques, par exemple, plusieurs sujets qui montre un peu l'étendue des coopérations. L'accueil des étudiants internationaux. On sait que toutes les universités ont mis, au fur et à mesure que le programme Erasmus s'est développé, ont mis en place des choses intéressantes. Par exemple, à Poitiers, on a un guichet unique, on a l'accueil en gare, etc. Mais il y a d'autres bonnes idées qui sont parfois développées. Et l'idée, c'est de faire bouger ces idées dans toutes les universités, dans toutes les alliances, pour que ça puisse toujours mieux servir les étudiants, dont les étudiants internationaux. Il y a d'autres aspects, par exemple sur la construction de maquettes communes en master, par exemple, ou on va dire des diplômes communs. Il y a aussi des choses qui sont attrayées à comment mieux innover avec les partenaires locaux. Donc toutes ces bonnes pratiques que certaines alliances ont pu à un moment donné développer, on va essayer de les disperser sur l'ensemble du continent européen.
Et on en profite que vous soyez là pour nous donner un peu des nouvelles de EC2U, justement, celle qui est pilotée, cette alliance pilotée par l'Université de Poitiers.
Oui, tout à fait. Alors, vous le savez, puisque à plusieurs reprises, on est venu vous parler ici. Donc, l'alliance EC2U, elle avait commencé en 2020. Elle avait été financée pendant 3 ans. Donc, ça s'est terminé, cette première phase dite pilote, en 2023, en octobre 2023. D'ailleurs, ça s'est clôturé avec un moment fort qui avait lieu à Poitiers, qui était le forum EC2U à Poitiers. Et je pense que peut-être un certain nombre d'étudiants et de personnel s'en rappellent, puisque vraiment, on a vu EC2U fleurir partout dans la ville. Il y avait des affiches, il y avait beaucoup d'activités aussi sur les différents campus. Et puis, en fait, en parallèle de cette fin de phase pilote, on avait recandidaté à un appel qui était en 2023, début 2023. Et donc, à l'été 2023, on avait été informé que nous étions donc renouvelés pour une période de 4 ans, qui a donc commencé le 1er novembre 2023. Donc, vous voyez, on est déjà, je disais tout à l'heure que le temps passe vite, on est déjà presque à la fin de la première année. Ça s'est traduit notamment par l'accueil d'une nouvelle université au sein de l'Alliance. Donc, les universités fondatrices, donc évidemment, il y avait Poitiers qui continue de coordonner, il y avait Coimbra au Portugal, il y avait Salamanque en Espagne, Pavie en Italie, Iéna en Allemagne, Iași en Roumanie, Turku en Finlande. Et depuis le 1er novembre 2023, on a accueilli l'université de Linz en Autriche. Et d'ailleurs, c'est elle qui va accueillir le premier forum de la nouvelle période, puisque de la semaine du 21 au 24 octobre, nous serons donc à Linz, en Autriche, mais un certain nombre d'événements qui ont lieu cette semaine-là, là-bas, seront rediffusés sur la chaîne YouTube, donc évidemment, tout le monde est invité à suivre ça en ligne. Et puis peut-être une dernière information, on va bientôt accueillir un 9e partenaire. Mais je vais laisser le suspense, je ne vous dirai pas qui est ce 9e partenaire, mais il va bientôt y avoir une 9e université.
On ne saura même pas le pays ?
Vous ne saurez même pas le pays. Vous devrez me réinviter.
Il va falloir revenir alors nous raconter ça. Donc, la rentrée se fait dans toutes ces universités. Et c'est vrai que ça permet des échanges favorisés pour les étudiants de Poitiers, notamment dans ces différentes universités qui sont des partenaires privilégiés.
Absolument. C'est vraiment notre premier cercle de coopération, que ce soit en mobilité, que ce soit en recherche, en formation, en innovation. Et puis, on aime bien utiliser aussi ce terme de service à la société. Alors, ça vient d'un anglicisme au départ, mais l'idée, en fait, fait, bah, c'est ce lien, l'université dans la cité, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce que l'on crée soit vraiment au service des citoyens et de la société. Donc tout ça, c'est vraiment au cœur de l'Alliance. Pour vous donner quelques exemples, hein, pendant la phase pilote, on avait généré plus de 2000 mobilités au sein de l'Alliance, en se rappelant que de 2020 à 2022, on était quand même bien empêchés par la Covid.
Pas dans une période favorable, c'est
voilà,
sûr.
Donc finalement, ces 2000 mobilités ont eu lieu en l'espace d'un an et demi, donc ça montre le dynamisme de l'Alliance.
Merci beaucoup Ludovic Thierry, vice-président de l'Université de Poitiers, délégué à l'Alliance ici to you et au réseau européen, d'être venu nous parler de cette alliance d'alliances, de ces cette soixantaine d'alliances universitaires, d'être venu nous parler de tout ça. Merci beaucoup, bonne journée et bonne rentrée. Et puis c'est la rentrée aussi pour le cinéma. Candice Mottet-Debert est avec nous, médiatrice au cinéma Le Dietrich. Bonjour Candice.
Bonjour.
Et aujourd'hui tu nous parles de tatami, mais c'est pas du sport, c'est de la politique.
Alors c'est du sport et de la politique, et c'est ça qui est intéressant dans Tatami, c'est que c'est un drame de Zaramir Ebrahimi et de Guy Natif. Alors Zaramir Ebrahimi, c'est cette actrice qui a été récompensée à Cannes en 2022 pour Les Nuits de Machad, et qui avait été, qui avait fui son pays pour cause d'une énorme histoire avec le gouvernement islamique. Récompensée. Est-ce que je continue à ce micro? Je me pose la question. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que là je peux continuer?
Oui.
Ouais, c'est bon.
Je crois que c'est bon.
Ok. Donc, l'histoire de Tatami, c'est l'histoire de la judokate iranienne Leila et son entraîneuse Mariam qui se rendent au championnat du monde de judo avec l'intention de ramener sa première médaille d'or au pays, l'Iran. Mais au cours de la compétition, elles reçoivent un ultimatum de la République islamique, ordonnant à Leila de simuler une blessure et d'abandonner pour éviter une possible confrontation avec l'athlète israélienne qu'elle devait affronter. Leila se retrouve face à un choix impossible, se plier au régime iranien ou se battre pour réaliser son rêve. Alors ce qui est intéressant dans ce film, évidemment, c'est la réaction à ce qui se passe exactement en ce moment avec le gouvernement islamique d'Iran et malheureusement les décisions dramatiques qui sont prises envers les femmes. Bien sûr, ça rentre, même si le film a été tourné l'année dernière, de toute façon, je ne sais pas si on m'entend.
Si, on t'entend.
Si on m'entend. Ok, très bien. Donc je voulais une petite critique. La résistance individuelle face à l'autoritarisme oppressant est l'un des enjeux majeurs de ce long métrage combatif, pourvoyeur d'un message de paix et d'appel au courage contre les privations de liberté. Passionnant sur le fond, somptueux et tendu comme un grand thriller sur la forme, Tatami expédie le spectateur au tapis. Quelle claque! On vous incite fortement, c'est dès aujourd'hui et c'est tout le mois de septembre au Dietrich, c'est notre sortie du mois.
Et tu voulais nous parler d'une séance unique.
Tout à fait, séance unique. Alors, chaque mois, on fait plein d'événements au Dietrich. Et cette fois-ci, on fait les Diet Trouvailles. Comme chaque mois, on vous remet en séance unique ou plusieurs fois des films de patrimoine. Et là, c'est le festival Play It Again qui revient. C'est une chance de voir ou de revoir sur grand écran une sélection de films de répertoire, des grands classiques du cinéma, des perles rares de toutes époques et en version restaurée. Et cette année, le fil rouge, c'est que la fête recommence. Alors nous, évidemment, au Dietrich, on adore faire la fête. On plonge. Lundi 9 septembre à 21h, séance unique du cultissime Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy. Et bien loin de l'idée qu'on s'en fait d'un film un peu cucu rose bonbon à paillettes, finalement, je le rappelle, Les Demoiselles de Rochefort est doté de plusieurs niveaux de lecture, d'un humour noir assez étonnant. Donc j'incite toutes celles et ceux qui l'aiment et ou celles et ceux qui ne l'ont jamais vu de venir le revoir. C'est avec l'immense Catherine Deneuve et la regrettée Françoise d'Orléac. Je vous lis le résumé. Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles, bien sûr. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour, bien sûr. Justement, des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient leur mère. Alors, immense fresque qui a des retombées dans tout le cinéma contemporain. Et bien sûr, on pense à La La Land, qui est un hommage direct aux Demoiselles de Rochefort. Un hommage absolument assumé qui reprend même toute la scène d'ouverture en hommage. Jacques Demy a su créer un univers unique, à mi-chemin de ses souvenirs de provincial rêveur et de l'imaginaire des contes de fées. En sortant d'un tel film, vous risquez de danser sur les trottoirs et de parler en alexandrin, avec le plus grand des naturels. Donc Les Demoiselles de Rochefort, c'est en séance unique lundi prochain 9 septembre à 21h. Et puis j'en profite pour dire que les 40 ans du Dietrich arrivent très bientôt. On est sur les chapeaux de roue, on vous prépare un très beau festival du mercredi 9 au dimanche 13 octobre et je vous en reparlerai bientôt.
Merci beaucoup, rendez-vous est pris tout de suite. C'est l'heure de votre agenda. Et ça commence par un appel du collectif Poitevin. D'ailleurs, nous sommes d'ici pour un rassemblement donc à 18h place Le Petit pour l'abrogation de la loi Asile-Immigration de janvier 2024, pour la fermeture des centres de rétention administrative, pour l'arrêt des expulsions, la régularisation des sans-papiers et une liberté de circulation et d'installation accompagnée d'un accueil digne. Rendez-vous donc à 18h place Le Petit. La ville de Poitiers célèbre le 80e anniversaire de la libération de Poitiers, donc ce jeudi 5 septembre, mais ça commence dès aujourd'hui par une conférence sur ce thème à l'hôtel de ville de Poitiers, la libération de Poitiers de l'occupation à la légalité républicaine par Jean-Marie Augustin, professeur d'histoire du droit des institutions à l'université de Poitiers. C'est donc à 18h dans les salons de l'hôtel de ville, et puis les cérémonies commémoratives auront lieu demain dès 11h15. Et puis une expo photo finissée d'entrée, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 octobre, une expo de Bernard Larquier au local rue Saint-Pierre-le-Puylier à Poitiers. Et le vernissage aura lieu ce vendredi à 18h30. Sur Pulsar, la rentrée des bénévoles ce mercredi, c'est à 18h Jazz Product, à 21h l'Indépendance, et ce soir à 23h dans Sonokino, Préfus 73, bande son abstraite pour fiction noire et faits divers bien réels par l'un des pionniers du Glitch Hop. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission et ton engagement renouvelé en tant que bénévole. Elle était cet été au Festival Terre du Son. Joseph est une artiste qui évolue depuis de nombreuses années dans la musique. Elle a notamment participé à l'album de Doc Gynéco avant de changer de nom de scène et de s'autoproduire. Elle appelle sa musique New Pop et son premier EP sort cette année. Voici le titre Nuit Blanche. Bon après-midi, à demain.
De soleil couchant, s'il te plaît. Une nuit dense et brillante, noire de jet. Perdu dans le son, je suis mes pas. Il est déjà trop tard, je sais trop où je vais. Ça sent la terre, la térite. Zoom sur des têtes, des hanches qui s'agitent. Sous les étoiles, on est si beau. Bienvenue dans mon Moscou. Dans une ronde enflammée, les corps s'enfoncent dans le bruit. Couchant, s'il te plaît, une nuit dense, 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 dense. Pulsar.
Pulsar.